dire bonjour et bienvenue à cette journée de réflexion et de débat sur ce qui anime les artistes et la place de la création contemporaine dans notre société. Et vous dire que c'est le 11e Festival de théâtre des Amériques, que c'est un festival qui est voué à la création contemporaine, donc il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc aujourd'hui, c'est une journée pour vous entendre haut et fort sur ce qui vous anime. Alors, je cède la parole à Ariane et aux invités de la table ronde.
Merci Marie-Hélène Falcon. Bonjour à vous tous. Merci à ceux et celles qui sont restés. Vous avez peut-être vous rendre compte que l'animatrice répète, mais que voulez-vous, elle avait préparé des choses aussi pour ce matin. Le défi sera grand. La table ronde de ce matin était exceptionnelle. Il bouge pas. On a passé un très beau moment ce matin et j'ai l'impression que celles et ceux qui sont restés en voulaient encore plus. Alors, je vous rappelle le titre « Qui crève des artistes ». Alors, on peut s'imaginer que ce n'est pas dans cette noble enceinte de réflexion qui est aussi le Festival du théâtre des Amériques où on va faire un enterrement de première classe des artistes et de la création cet après-midi. On va plutôt valoriser ou enfin essayer de comprendre ce qui les motive et ce qui les fait continuer jour après jour à chercher et à proposer leur travail à leurs pairs et au public. On va essayer de voir donc à quoi ils carburent. Pour plusieurs, ils sont vus comme des irréductibles à une époque où, franchement, les metteurs en marché ont d'abord la grosse cote, mais on ne peut pas nier qu'actuellement, malgré le fait qu'on nous dise qu'on soit à une époque de désillusion, de cynisme, où le cash est roi, comme dirait ma fille, que la création est quand même furieusement vivante, que les artistes et les créateurs ne savent plus donner de la tête. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui les tient alors qu'on a l'impression qu'il y a des conditions ambiantes qui pourraient bien les décourager. Je vous inviterai, vous de la salle, régulièrement, dans la mesure du possible, à prendre la parole. À l'occasion, à vous faire aussi avocat du diable, et j'invite aussi nos invités en table ronde à ne pas hésiter à le faire. On peut se demander, honnêtement, et les idées là-dessus ne sont pas arrêtées, il n'y a pas une ligne juste ici cet après-midi. Est-ce que cette époque est vraiment plus dure pour les créateurs? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle est pire que d'autres époques? Est-ce que, au fond, est-ce que les artistes osent assez? Est-ce que le public est si endormi que cela? Est-ce que les artistes sont absolument maîtres de leur travail? Est-ce qu'ils ne devraient pas être interdépendants des autres acteurs sociaux dans une, autour de nous? Et j'aimerais éventuellement, si ça stimule quelqu'un, qu'on réfléchisse à une question qu'un participant par Internet au festival nous a envoyé, qu'on trouvait très bonne, qui disait « Est-ce qu'au fond les artistes ne rêvent pas secrètement d'avoir un grand succès? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension du pouvoir dans le travail des artistes? Et comment les artistes négocient l'éthique de cette dimension de pouvoir-là? » Ce n'est pas toujours les questions auxquelles, les motivations auxquelles on fait référence rapidement. Alors, je vous explique comment ça se passe. J'ai quatre précieux invités cet après-midi que je vous présente en rafale à mon extrême droite, qui me le permettra. Martin Fauché, metteur en scène, auteur et bien d'autres choses, professeur. À ma droite, M. José Pia, artiste, homme de théâtre accompli, qui est donc invité du FDA. À ma gauche, Linda Boudreau, chorégraphe, et à mon extrême gauche, ce qui lui fera plaisir, Denis Côté, cinéaste. La composition de la table ronde n'a pas été allongée, mettons, n'a pas été laissée au hasard. C'était important pour Stéphane Lépine et Marie-Hélène qui ont travaillé à organiser cet événement, qu'il y ait deux personnes de théâtre, une de l'étranger invitée et un qui travaille plutôt ici, et aussi deux autres artistes qui travaillent dans d'autres disciplines, parce qu'il y a de plus en plus de connexions, mais aussi parce que ce que vous allez entendre de ce côté-ci risque d'être une réflexion plus élargie sur l'interconnexion des arts. Souvent, ce qui motive et anime ces artistes-ci, ils le placeront souvent dans le contexte de leur société. Et tout au long de notre rencontre aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui ont été sollicitées pour faire des courtes présentations de leurs réflexions sur ce qui les motive eux-mêmes. Et je vais vous les nommer et les présenter au hasard cet après-midi. Alors, vous entendrez Geneviève Blais, qui est metteur en scène, Céline Bonnier, l'actrice, Jean-François Caron, qui est auteur, Gilbert David, qui est fondateur de la revue Jeux et professeur, Olivier Chouanière, qui est auteur, Yves Siouy-Durand, qui est directeur artistique du théâtre Onzinoc, Julie André-Té, qui est une performeuse, et un étudiant au Conservatoire d'art dramatique, Émile Proux-Cloutier. Alors, tout ça pour vous dire qu'il faudra quand même rouler tout ça. C'est pourquoi nous allons commencer dès maintenant. Et comme disait Marie-Hélène, on fait parler la visite d'abord. On est comme ça. Alors, je vous présente avec beaucoup de plaisir José Plia. José Plia qui est, je le disais, un homme de théâtre dans tous les sens du terme, un être polyvalent, dramaturge, comédien, metteur en scène, franco-béninois. Il est l'auteur d'une quinzaine de pièces qui ont été traduites et jouées un peu partout dans le monde. Certaines de celles-ci, dont une qui a beaucoup fait parler d'elle et dont il y a eu une lecture au FDA, Le complexe de Thénardier, donc création en 2002, Le masque de Sika, qui a été créé en 2000, Nègre Errance, créé au Cameroun en 1998, puis après au Bénin et en Martinique, et il a mis en scène une autre de ses pièces, Les Effracteurs, au Studio Théâtre de la Comédie-Française, récemment, donc il y a en janvier 2004, et nous étions assis sur les rivages du monde, qui a été créé au FTA il y a quelques jours, une création donc de Ubu, une mise en scène de Denis Marlowe. Évidemment, il a des études universitaires en littérature, mais il a surtout travaillé à plusieurs endroits dans le monde, ce qui a nourri à la fois, je pense, son expérience et son imaginaire. Il a été l'instigateur, pardonnez-moi, de la création de plusieurs troupes de théâtre en Guinée équatoriale, au Cameroun, et il est établi en Martinique, à Roseau, avec sa famille depuis 1998. Il a revitalisé la création théâtrale locale en tissant des liens avec de nombreux formateurs professionnels issus des Martiniquais et aussi des Français de passage. Il est directeur artistique de l'association Écriture théâtrale contemporaine en Caraïbes. Bienvenue, Monsieur Plia.
Merci.
Je me demandais d'abord, question que je vous ai déjà posée au téléphone, et simplement dit, qu'est-ce qui vous anime, vous, aujourd'hui? Est-ce si différent de ce qui vous animait il y a 15 ans? Comment, à quoi nourrissez-vous votre travail d'artiste et de créateur?
Oh, pardon. C'est assez simple. C'est une démarche très personnelle, très égoïste. Une névrose que j'essaye de soigner, de boulimie, de choses à faire. Il n'y a aucun altruisme dans tout ce que je fais là. C'est vraiment, alors tant mieux si après ça profite aux autres. Mais c'est vrai, c'est, sincèrement, je crois qu'il y a une démarche un peu comme ça, individualiste. J'étais dans une émission de radio tout à l'heure, juste avant de venir ici, et le journaliste me demandait la même chose et je lui disais, vous savez, en Afrique, on a, les artistes ont eu l'histoire de l'art d'une manière générale et l'histoire de la littérature en particulier en Afrique, est une histoire très jeune. Et dans cette jeunesse, il y a des moments qui sont répertoriés assez clairement. Il y a la première époque, les pères de notre littérature qui ont passé les premiers temps à réhabiliter les arts nègres, les arts africains qui avaient été tant dévalorisés par le colonialisme. C'est la génération des Senghor et Césaire qui ont sublimé, qui ont essayé de réhabiliter de manière parfois exagérée, mais c'était nécessaire. Et puis il y a une deuxième génération qui est arrivée très vite, qui a été la génération de la première désillusion. C'est la génération que le grand écrivain ivoirien Amadou Koumouma a surnommé de son roman célèbre Les Soleils des Indépendances. Comment très vite le pouvoir donné aux autochtones a viré à l'aigle doux pour faire sobre, donc première désillusion. Et puis ensuite, dans les années 70, ça a été les années des écritures et de l'art qui pourfront les dictatures. Donc on était, dans ce panorama que je brosse à grands traits, on est dans une littérature jeune et donc, j'ai envie de dire, d'intervention sociale, d'intervention politique tournée vers... les artistes ont le sentiment d'avoir un rôle à jouer dans la société, de dénonciation, de parler pour le peuple. Certains, comme mon père par exemple, écrivent en français et puis traduisent leurs textes en fond pour parler du Bénin, mais on a d'autres exemples au Togo ou au Sénégal où c'est traduit en Wolof, parce qu'ils disent oui, mais on écrit, on dénonce, mais les gens qui viennent voir nos spectacles, qui lisent nos romans sont des gens éduqués, des gens qui ont accès qui sont alphabétisés, donc ça touche encore 2, 3, 4, 5% de la population. Donc on traduit dans les langues locales, on fait beaucoup de théâtre parce qu'on ne peut pas lire, même le Wolof, il faut savoir le lire, on ne peut pas le lire, donc on traduit beaucoup, on fait beaucoup de théâtre. Et voilà, c'est notre héritage à nous les artistes d'origine africaine nés dans les années 70 et fin des années 60. Et puis évidemment, il y a nous, aujourd'hui, notre génération qui est totalement désillusionnée parce que tous ces combats successifs n'ont mené à rien, sinon à pire. Donc on est une génération très individualiste, très égoïste, qui essaye d'écrire pour écrire, qui parle de soi, de son intimité, de sa névrose, de sa psychanalyse. Et ça, c'est intéressant. Enfin, moi, je me reconnais beaucoup dans cette chose-là. Ce qui me motive, pour revenir à votre question, c'est ça, c'est essayer de trouver mes fondements à moi, mon identité à moi, mon écriture à moi, ma géographie intime et personnelle. Et comme je dis, il se trouve que cette géographie intime et personnelle est traversée par les problématiques de l'humanité dans laquelle je vis. Alors forcément, elles vont apparaître. Mais ce n'est pas la motivation essentielle.
Ok. Donc, ce n'est pas, vous n'êtes plus dans la dénonciation comme l'ont été vos prédécesseurs dans les années 70, mais même si les problèmes qui vous touchent et dont vous parlez, je n'ai vu qu'une pièce, qui sont véritablement liés dans celle-ci, en tout cas au racisme, à la quête identitaire, vous les voyez sous un autre angle qu'un angle premier niveau social, conscientiser la société, que ce que faisaient vos prédécesseurs, c'est ce que vous dites. Et si vous aviez, vous, à résumer ce que vous tentez de faire en nommant ces thématiques-là, à votre manière, vous diriez que vous cherchez à le faire de quelle manière?
En essayant de repousser les limites de mon écriture, de ma langue, de cette musicalité propre qui travaille en moi, qui m'interpelle. Lorsque je veux écrire une pièce comme Nous étions assis, je me pose des questions par rapport à la... Il y a bien sûr la thématique, il y a le sujet, et puis quand tout ça est posé assez rapidement, il y a le défi que Rimbaud lance à tous les poètes, c'est de trouver une langue, et de trouver une langue pour chaque histoire, et de partir dans cette quête-là qui est une très douloureuse, très intime, très personnelle. Donc c'est quelque chose de très narcissique, c'est un travail sur la répétition, sur la musicalité, sur les effets de langue. Voilà, c'est comment raconter le monde avec cette langue-là qui fait mon identité. Et finalement, pour quelqu'un comme moi qui est d'origine béninoise, de nationalité française, qui a déjà enfant a traversé le monde avec ses parents, et puis adulte a continué à explorer comme ça la planète, l'identité est une chose, le territoire est une chose qui n'existe pas, la géographie est quelque chose de compliqué, donc le refuge où je me sens le plus, je me retrouve le plus, c'est ma langue, c'est mon écriture, donc voilà, c'est cette chose que j'explore au maximum à chaque fois que je repousse les limites.
Et ce travail sur la langue que vous faites à travers un certain nombre de thèmes qui sont souvent un peu explosifs, vous le dédiez à un public. Il est quoi le public pour vous? Qu'est-ce que vous lui voulez au public?
Très honnêtement, rien. Non, c'est vrai, je n'ai jamais écrit pour le public, mais jamais, jamais, jamais. J'ai toujours fait le choix d'avoir une vie professionnelle qui fasse que... Bon, très tôt, j'ai compris que je n'étais pas assez fou pour être artiste au sens plein du terme. C'est-à-dire, surtout dans la voie qui semblait se dessiner pour moi. Alors, j'ai tâté de la comédie, j'étais très mauvais. J'ai tâté de la mise en scène, ce n'était pas brillant. La musique, je n'y comprends rien, en fait, la peinture non plus. Donc, quand il se trouve que j'ai eu un début d'identification avec l'écriture, c'est le genre qui m'a le plus interpellé, en tout cas qui me donnait le plus de satisfaction, j'ai choisi de cultiver ce genre.
Mais pourquoi le théâtre, alors vous auriez pu écrire des romans?
Pourquoi le théâtre? Parce que c'est de la clavier. J'ai un père qui est dramaturge, qui a eu son heure de gloire en Afrique parce qu'il a fait ce théâtre d'intervention sociale, une espèce d'icône comme ça pour toute une génération. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai tout fait pour le tuer. Et je suis pas parvenu, j'ai essayé de le tuer, j'ai écrit plusieurs pièces où je le passe à la tronçonneuse, mais ça marche pas. Donc l'écriture est revenue comme une manière un peu, y a rien à faire, on n'échappe pas à cette chose-là, donc je m'y soumets.
Et parfois les pères sont comme les mères, ils ont cette vie, puis les chats c'est rien à côté de ça. Alors, on a compris, je crois, jusqu'à quel point elle veut se placer devant nous comme un individualiste de la pire espèce qui ne travaille que pour lui. Et puis, tant mieux s'il y a quelqu'un qui vient voir ses pièces. Mais autrement, il va continuer d'écrire parce que son but dans la vie, c'est de finir par tuer son père. Alors voici l'Académie. On réfléchira à ça un peu plus longuement quand vous prendrez la parole. Je vous remercie, vous êtes très bien fait ça, vous êtes très convaincant. Je vais passer, étant donné que l'idée de nos deux complices, c'est de faire se parler aussi les disciplines, je vais inviter maintenant Linda Gaudreau à nous dire, elle, la chorégraphe depuis 15 ans, qu'est-ce qui la motive, elle qui s'est d'abord intéressée à l'histoire de l'art et à la philosophie avant de s'intéresser à la chorégraphie. On dit que sa recherche contient quelque chose de l'architecture, de la musique, des arts visuels. Elle a fondé en 92 la compagnie de Brune, qui collabore avec des lieux de diffusion de création les plus prestigieux de la danse contemporaine à travers le monde, à Paris, en Allemagne, en Autriche, au Brésil, pour ne nommer que ceux-là. Elle a fait une carrière internationale très très rapidement. Elle a créé des pièces aussi pour l'Europe, Israël. Elle donne des cours, des conférences à travers le monde. Elle vient de terminer une suite chorégraphique intitulée Encyclopédia, qui qui s'est déclinée en plusieurs chapitres, 5, sauf erreur, qui exposait son point de vue sur l'activité et la pensée humaine, le corpus chorégraphique et artistique contemporain. Cette femme voit large. Elle m'a dit, en pré-entrevue, qu'elle doutait. Je vous le dis comme ça parce que je passe beaucoup l'information que je reçois. Hein? On irait pour ça. Et Linda, j'aimerais ça d'abord entendre de votre bouche qu'est-ce qui vous motive et si vous êtes encore motivée à continuer ce travail qui vous a quand même apporté un certain succès jusqu'ici.
Oui, je doutais, je doute toujours en fait. Je trouve ça intéressant en fait qu'on me pose la question à ce moment-ci de ma vie, comment je fais pour continuer, parce que je viens de terminer une création, ça fait un mois, et c'est un peu le pire moment, je pense, pour demander à un artiste comment continuer, parce qu'on pense qu'on ne sera plus jamais capable de... On dit comment on a fait ça, pourquoi je continue de faire ça, je suis vraiment... je suis masochiste, ou quoi faire ça? Donc, c'est une période un peu... comment dire... fragile, après avoir fait un projet sur plusieurs mois, en fait, de me convaincre, en fait, de dire oui, c'est bien, oui, je vais continuer, je sais comment continuer. Non, je suis toujours dans le doute, et d'autant plus quand je finis un projet. Mais il y a une chose qui m'est venue à l'esprit, parce que depuis que vous m'avez parlé, j'ai quand même réfléchi beaucoup à tout ça, puis je me disais, j'ai des voix dans une pièce dans un festival, j'ai été voir le chantier de Wajdi. Je ne sais pas son nom de famille, je n'arrive jamais à le dire.
Mouawad, on s'habitue.
Et j'ai été, puis je me disais, c'est fantastique. C'est pour ça que je continue à travailler. C'est de voir quelqu'un qui n'a pas de spectacle, qui n'a aucune ligne d'écrite, et qui était avec tous ses comédiens et comédiennes autour de lui, ses collaborateurs, et qui a vraiment le guts, je veux dire. D'être complètement à l'aise avec ça et d'exposer son projet et de raconter des histoires comme un conteur. Et c'est sa façon à lui de commencer un projet. Ça, pour moi, je trouve ça fantastique. Je me disais, c'est extraordinaire. D'abord, qu'on permette ça dans un festival. Merci à Marie-Hélène de me donner un espace pour ça. Et je pense que dans mon cas, souvent, c'est les artistes qui me font bouger. C'est le travail de d'autres artistes. Probablement c'est pour ça que j'ai commencé le projet Encyclopédia en 99, qui était un projet avec lequel je voulais inviter d'autres artistes. Quand on est chorégraphe, c'est difficile de s'imaginer au début, surtout qu'on est chorégraphe qui n'est pas danseur, moi je danse pas dans mes pièces, et donc de s'imaginer qu'on pourrait travailler avec d'autres artistes. Mais si j'étais danseuse, je pourrais demander de travailler avec cette metteur en scène là. Mais c'était pas mon cas, puis je tournais beaucoup et je rencontrais plein d'artistes vraiment intéressants. Je me disais, oh, c'est dommage, j'aimerais ça collaborer avec lui, avec elle. Puis finalement, j'ai trouvé ce projet. C'est imposé à moi, c'est le projet Encyclopédia. C'est un travail qui est complètement intertextuel. Donc j'invite d'autres artistes à me donner, prêter un bout de quelque chose qui existe déjà ou créer quelque chose pour un document. Donc chaque. Mon projet Encyclopédia, c'est appelé document 1, 2, 3, la chance 2 à 4. Donc au moment où on se parle, comment continuer, c'est une bonne question aussi, parce que je ne sais pas si je vais continuer jusqu'à 25, je m'étais donné jusqu'à 4 pour continuer. Mais tout ça pour dire que comment je continue, je pense que c'est beaucoup le fameux doute dans lequel je suis tout le temps. Je pense que c'est un mouvement. Ce qui fait qu'on continue, c'est d'être dans le mouvement. Et être en mouvement, c'est-à-dire... parce que la chose qui tue, en fait, ce qui est mort, ce qui est la mort, c'est quand on est statique, qu'on n'arrive plus, c'est la peur, en fait. Et il y a beaucoup de peur, j'ai toujours peur, mais on dirait que ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est le fait de vieillir ou quoi, puis je regarde le travail que j'ai fait, je ne considère pas que c'est un travail qui est marginal, mais je réalise que c'est la marge qui m'intéresse, c'est la peur qui m'intéresse. C'est de ne pas être capable qui m'intéresse. C'est de donner le pouvoir au public, et ça, c'est pas de manière altruiste, c'est mon propre pouvoir que je prends, mais que je veux partager, en fait, avec le public, de dire, voyez, dans la vie, ça ne manque pas grand-chose pour faire de la création. Une chose, mais absolument banale, pour devenir significative. provisoirement, parce qu'il n'y a rien qui a un sens comme tel. Le sens qu'on donne à sa vie, c'est le sens qu'on veut bien donner, mais c'est ça qui est créatif, c'est-à-dire, oui, c'est pas facile de se lever le matin et de donner un sens à sa vie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de sens. Le sens, on se le donne. Et je pense que les artistes, un peu le rôle, on n'a pas de rôle, mais en fait, s'il y a quelque chose qui sert, parce que je pense vraiment que l'artiste a une fonction fondamentale et extrêmement importante, cruciale dans le monde, c'est de permettre de donner de montrer des alternatives. C'est-à-dire, tu peux vivre comme ça, oui, tu n'es pas obligé d'être articulé, de savoir où tu t'en vas, d'avoir un discours, de te justifier, tu peux être dans la marge. Donc, pour moi, la marge m'intéresse d'être à côté. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que tout le monde vit ça. Et donc, pour moi, c'est de donner la parole, donner le pouvoir au monde, aux gens, dire que c'est possible. Tu peux être comme ça, tu peux penser comme ça, tu peux voir ça. On est tellement dans un monde de culture, et moi je fais vraiment j'ai une coupure, et je me révolte contre, puis il y a beaucoup de colère aussi dans le fait de continuer, puis dans mon cas. Si je continue, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui me mettent en colère. Et je n'accepte pas que l'art contemporain, que les artistes, le travail qu'ils font en fait, soit récupéré dans la culture, devienne des discours politiques, devienne de la publicité. Et la pratique artistique en ce moment est extrêmement récupérée par un discours politique, culturel, et ça je ne le prends pas, j'ai beaucoup discuté avec ça. Donc, il y a aussi une part de ma
d'indignation
par rapport à ça. Je suis très très sensible à ça et donc tout ça pour dire que pourquoi en ce moment je suis aussi intéressée pour des jeunes artistes, c'est probablement pour ça, pour leur donner un contexte, leur dire non, t'es pas obligé de faire comme nous, il n'y en a pas de moule, le moule tu l'inventes, puis on n'est pas des victimes. Donc moi je suis intéressée beaucoup à mettre en place en ce moment des moyens pour que les plus jeunes artistes en art puissent trouver les moyens de réaliser leur projet en fait. Je suis chorégraphe, mais je vais continuer ma pratique, mais je pense que j'ai vraiment pris une décision après ce projet-là de dire c'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est là où je pense que je peux réussir, je peux continuer en fait.
Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un lieu? Vous voyez...
Non. Je vois pas de lieu, puis j'en veux pas non plus parce que c'est de l'argent. C'est comme moi, j'aime bien travailler avec peu de moyens. Je ne dis pas qu'on a besoin, je ne veux pas envoyer aux politiciens un message qu'on a besoin d'argent, on en a besoin, mais je pense qu'il y a moyen aussi de travailler avec ce qui est là. Moi ça fait 13 ans, 15 ans que je travaille un petit peu partout en Europe, comme nomade. J'ai pas de lieu, j'en ai jamais voulu, je vais toujours travailler chez les autres. Et je trouve ça intéressant de me promener comme ça un peu, bon, je vais aller chez vous pendant 2 semaines faire... J'adore ça, j'en veux pas de lieu. Bon, quelqu'un m'en donne bienvenue, hein? Je veux prendre, mais je veux pas. Parce que je tomberais dans la politique, je tomberais dans quelque chose où j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Quelqu'un me prête un lieu. Moi, ce que j'aimerais, par exemple, c'est qu'on me prête un lieu pendant 3 ans, pas plus, pour travailler.
Une résidence quelque part.
Oui, puis même là, je serais pas tout seul, j'inviterais d'autres artistes mm-hmm. à partir. Je voudrais pas.
Et des jeunes.
Et des plus jeunes artistes, oui.
Vous êtes inquiète pour les plus jeunes?
Ben, je t'inquiète pour moi, pour les plus jeunes, pour la pratique artistique, beaucoup en ce moment. Parce que je trouve qu'on est rendu dans un monde de publicité, un monde de l'image. Et c'est peut-être pour ça que je suis beaucoup plus attirée, je suis beaucoup plus proche des artistes sonores aussi, quand je regarde. Même si je suis chorégraphe, je fais un travail scénique, tout ça, mais...
Oui, on a entendu Robert Normandeau ce matin qui a travaillé avec
lui. Oui, j'ai travaillé avec lui, justement. Et bon, c'est ça, il y a comme un monde... Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces images? Alors, ça va ailleurs, de toute façon.
Mais on comprend que vous êtes un peu lassé du bombardement d'images et pas nécessairement significatives ou qui ont surtout une incitation marchande. Peux-tu être quelque part sans qu'on veuille nous vendre quelque chose? On ne peut plus.
Peux-tu arrêter d'être homogénéisé aussi tout le temps? le travail artistique. Les artistes en premier le font pour survivre. Ils se formatent eux-mêmes, ce que je déplore, je trouve c'est épouvantable, mais c'est une façon de survivre. Moi, c'est ce qui m'indigne en ce moment.
Une indignation dite sur un petit ton jamais fâché, mais on sent que il y a 3 ou 4 détonateurs ici en dessous. Ah, je mettrais un sang là-dessus, moi. Bon, comme je vous avais menacé de le faire, il y a dans la salle des gens qui sont préparés à nous parler. Et je vais oser demander à Céline Bonnier, actrice ci-devant, de nous dire et de nous lire un court texte, je crois qu'elle a préparé, Céline, sur ce qui te motive, toi, aujourd'hui. Au micro ici, s'il vous plaît. Merci d'être là.
Merci à vous.
Alors, la création, pourquoi? Difficile de répondre simplement à cette question. Peut-être la réponse est-elle si simple que la question ne s'est jamais posée. Qu'est-ce qui m'anime et pourquoi? Trouverais-je une réponse parfaitement résolutive? Ce qu'il y a de plus intéressant dans la création, n'est-ce pas, quand elle s'abstient de répondre à la question qu'elle soulève? La création est pour moi une façon de respirer, je dis bien une façon. Par contre, je ne me suis jamais attardée à la raison pour laquelle je respirais par là. Je pourrais tout simplement respirer par le nez, mais bon, c'est pas suffisant. Mon corps ne prend pas assez son pied en respirant par le nez. S'il ne suffisait que prendre son pied. Mais non, on cherche autre chose, quelque chose de grand, de vibrant, d'assez fort pour enflammer ce qu'il y a à brûler. Le souffle de la création devient une des solutions à mon mal de vivre. Il ne l'évacue pas nécessairement, mais du moins il le transcende. Au lieu d'un marais stagnant, il, c'est-à-dire le mal de vivre, le malaise, la douleur, le sentiment d'inadéquation, peut porter différents noms. Il, donc, au lieu d'un marais stagnant, devient une eau qui voyage et s'éclaircit en glissant sur la pierre. Ce qui m'anime, la lumière au bout du tunnel, la sensation d'éloigner la mort au sens propre comme au sens figuré, le sentiment de remettre en place ce qui n'a plus de sens, l'art du soulèvement, la question. L'art s'apparente à la science, c'est pas moi qui l'ai dit. Ils observent tous deux la vie et les phénomènes qui la constituent. Tous deux posent des questions. L'une tente d'y répondre le plus précisément possible par des hypothèses qu'on vérifie. L'autre propose sans cesse de nouvelles façons de remettre en question. Ce qui a pour effet de décrasser l'âme, la pensée, en nous déstabilisant constamment, en renforçant l'autonomie de pensée et d'être. Enfin, c'est ce que ça provoque chez moi. Tant que l'homme se re-questionne lui-même, il y a de l'espoir. C'est pas que c'est réglé, mais ça aère l'esprit. Quand la création se re-questionne elle-même, elle entreprend un dialogue avec les autres artistes, et par ce fait, stimule la remise en question du moyen de communication qu'elle représente. Ça m'intéresse. Donc, il y a aussi la question sur la façon de soulever la question qui m'anime. Les questions laissées en suspens, ça m'habite, ça me permet de m'habiter moi-même et mieux si je choisis de m'y attarder. Ce qui m'anime dans la création, c'est le processus d'analyse, les essais conduits par l'instinct. C'est de découvrir, de chercher le meilleur moyen de traduire le plus clairement possible le fond de mon âme et de la façon la plus intègre. Ce qui m'anime, c'est de construire un univers comme une maison avec une famille choisie. Pour me protéger un peu plus, j'imagine, des bourrasques qui me crissent à terre de temps en temps et de pouvoir y abriter ceux qui en ressentent le besoin. C'est de déconstruire et fouiller la matière comme un archéologue, découvrir des coins sombres et cachés comme un spéléologue. Ce qui m'anime dans la création d'autrui, c'est quand elle me fait revoir sous un tout autre angle une chose que je connais déjà ou non. Créer est ou devrait être un engagement. C'est un engagement qui participe à mon équilibre, à mon bonheur. Dans un monde où l'on viole des forêts entières pour le plaisir de quelques magnats, où l'on donne à massacrer des rivières sous les yeux des riverains pour le seul profit d'un seul homme, où l'on traite encore trop souvent les hommes comme un troupeau de porcs solitaires coincés dans leur enclos, dans un monde où l'on échange des pots de vin comme on échange des numéros de téléphone, dans un monde où l'on déguise l'intérêt économique et la soif du pouvoir sous des discours maladroitement ampoulés d'humanisme, d'altruisme et de liberté. Moi, j'ai besoin que cette forêt de la création existe en moi et autour de moi comme un poumon qui me permet de respirer. Pour croire que nous ne sommes pas uniquement ici pour nous autodétruire, mais pour réfléchir ensemble sur l'être humain, sa condition et ce qui l'anime profondément. C'est le poumon de mon âme. Les arts et la création sont écologiques, quoi. C'est une question de santé de la nature humaine.
Voulez-vous réagir à ça? Ou si vous êtes quoi?
Quand Céline parle des questions, je pense que c'est comme ça. C'est la, probablement pour moi aussi, une création commence par une question. Une question amène une idée, en fait, qui amène des collaborateurs, qui ramène des questions, et donc c'est cette dynamique. Mais la, je pense que la dynamique de la question est vraiment importante. Et ouais, je suis complètement d'accord avec ça.
Très beau texte, merci. J'avais envie de demander à Jean-François Caron, qui est un peu souffrant, m'a-t-il dit.
Ça va
aller, hein, Jean-François? Oui? OK. Lui aussi a écrit un texte, et...
Avec un bon micro.
Est-ce que l'indignation fait partie des choses qui vous motivent?
Après.
Ça va très bien. Je n'êtes pas obligé de répondre aux questions d'animatrice.
Non, mais à la suite. Je passe 6 mois d'une année complète avec 40 étudiants. Je ne me sens menacé par aucun d'entre eux. Ceux qui parmi eux écrivent bien m'allument infiniment. J'en ressens un étrange plaisir souterrain, celui de croire qu'à force d'être plusieurs et de s'y mettre de tous les côtés, je l'ai écrit dans nos hommes de bonne volonté, qui n'a encore jamais été créé ici, la maison va tomber. La maison est tout ce que la maison recèle de petits secrets et de recettes éprouvées pour faire tenir debout tout ce qui ne tient pas debout. Ces murs contre lesquels la création se bute. J'enseigne parce qu'écrire ne me rapporte pas d'argent. Et comme j'écris même ici et malgré tout, ce n'est donc pas pour l'argent que je le fais. Si l'argent n'est pas mon moteur, mon succès alors. Gloire en poche, l'auteur n'a besoin de convaincre personne et moi je dois toujours convaincre tout le monde. Pour aller de gloire, l'auteur n'a pas à se battre avec son éditeur pour le choix de l'exergue, et il n'attend pas 15 ans pour que soit traduite une pièce qui a largement fait ses preuves dans ce pays où, bon an, mal an, on traduit les pièces sitôt que pondu. L'auteur encouragé reçoit un local pour répéter et autres opportunités. Il est clair, je ne poursuivrais pas si j'étais motivé par quelques glorioles qui ne se présentent pas. Qu'est-ce qui m'anime alors? Alors que tout cherche à m'empêcher d'eau. Mais je ne le dirai pas. Je le dirai, mais pas comme ça. Pas de cette façon-là. J'arrive devant vous avec 20 années et des éclats de théâtre jetés comme des fleurs poussées à même la merde. Plutôt inaperçu ici. Rien qui ait marqué le paysage au point de figurer dans la généalogie de jeu. Un fils indigne. On le croyait mort et vient de pondre une nouvelle pièce indigeste. Je ne suis pas sans savoir que je mets la famille en déroute. C'est précisément dans cette résistance que je me sens vivant. Cette position même que j'occupe me renvoie chaque heure de l'existence à la motivation viscérale et au devoir que j'ai, si je prends la parole, de me placer face au monde tel que je me trouve, ni riche, ni glorieux, soucieux de faire état en toute humilité de ma misère, ma joie, avec la force secrète que je tire de cette indignité qui est mienne. Je n'écris pas pour faire l'unanimité. Rassurer un consensus toujours inquiet n'entre nulle part dans les motifs de mon engagement routinier, les raisons que j'ai de m'atteler à la roue quotidiennement. Mon désir d'artiste a plutôt à voir, et c'est ce que j'ai essayé de transmettre dans la nature même du continent, avec le désir d'un rapport riche et complexe avec l'autre, non résolu et insoluble. Tel je suis, tel est l'autre et tel je vois le théâtre. Puisque tout est savamment mis en place pour décourager l'écrivain de l'écriture, je dirai ici ce qui m'anime comme quelque chose de positif. Ce qui me remet la plume à la main, m'invite à la récidive, jusqu'à m'étonner moi-même d'être encore là, poussé par je ne sais quoi que je ne connais que trop bien. Tout ce qui cherche à m'empêcher d'écrire contribue à me faire écrire. Le fait que j'ai besoin d'expliquer mes textes au directeur des théâtres dans l'unique but de les rassurer. La presse qui n'est pas au rendez-vous quand elle aperçoit la marquise du théâtre d'aujourd'hui, un titre qui, à lui seul, annonce qu'il traitera de la question autochtone. La presse qui serait au rendez-vous si on lui promettait une comédie musicale sur la question des comédiens connus avec des plumes dans le cul. Le fait qu'il me faut avoir recours au directeur d'un centre dramatique national français pour convaincre mon conseil des arts et des lettres de m'accorder une bourse de déplacement qui me permette de participer activement, la phrase est très longue, à la création d'une courte pièce à l'étranger en compagnie de 5 auteurs de la francophonie. Ce n'est pas qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse, c'est qu'on ne juge pas professionnel le fait d'être joué par des étudiants, même si ces étudiants appartiennent à une école de théâtre liée à un centre dramatique national important et que, pour agrandir la clientèle, une tournée de 60 spectacles est prévue dans autant d'endroits qui ne sont pas faits pour recevoir le théâtre. La tournée a bel et bien eu lieu et tous les auteurs ont été payés. Quand on prendra pour acquis que l'auteur d'une pièce sur le nationalisme d'ici est un farouche indépendantiste, quand il ne saurait avoir pour patrie que le gouffre abyssal dans lequel le plus petit élan de patriotisme le plonge, j'écrirai. Tant qu'il se trouvera une critique pour ranger dans la colonne réactionnaire un auteur qui vise non pas tant la classe syndicale que les individus qui en tirent profit et protection, quitte à écorcher au passage quelques-uns des progrès dont ils ont raison d'être fiers, j'écrirai. Tant que le chroniqueur d'une revue aussi spécialisée que je, perplexe devant la production française de Aux hommes de bonne volonté, croyant qu'entre celle-ci et son semblant de création québécoise, j'ai réécrit toute la pièce, alors que je n'ai touché à aucune de ces virgules, n'essaiera pas de comprendre comment une telle aberration se peut, et d'en rendre compte à ses lecteurs, j'écrirai. Tant qu'il se trouvera un acteur pour accepter de jouer dans une pièce contemporaine à condition de la rendre accessible au public, sans que soit remise en question sa définition d'accessibilité, tant qu'il se trouvera un acteur pour décider de ce que je suis en mesure de comprendre et de ne pas comprendre, tant qu'existera cet acteur qui prémâchera le théâtre comme on fait avec le manger du bébé, j'écrirai du théâtre. Tant qu'acteurs, metteurs en scène et directeurs de théâtre n'useront pas des mêmes réflexes avec les textes d'ici et d'aujourd'hui qu'ils ont recours avec tout ce qui vient d'ailleurs, tant qu'ils n'accuseront pas la distance de l'humilité, tant qu'ils éprouveront l'impression, jusqu'à en faire une intime conviction qu'ils auraient pu les avoir eux-mêmes écrits, tant qu'ils feront semblant en public d'avoir fait déjà l'aller-retour de l'obscurité aux ténèbres et qu'en privé, ils n'auront rien à en dire, tant qu'ils croient et feront croire que l'auteur d'ici a besoin qu'on lui tienne la main, qu'on lui montre où placer ses virgules, qu'on lui dise ce que devrait, ce qu'aurait dû être sa pièce, tant qu'un théâtre voué à la création mettra 6 ans, ou même 3, à non pas produire, mais accuser réception des textes d'une auteure encore inconnue, dont l'écriture n'entre pas plus dans le langage du bilan annuel et du déficit accumulé que n'entrerait celle de Tchekhov si Tchekhov écrivait ici et aujourd'hui, je dirais à cet auteur d'écrire du théâtre, même si elle n'aperçoit aucune lumière de projecteur au bout du tunnel. Et tant que sur ma route je croiserai un acteur désireux de redécouvrir le théâtre sans pour autant savoir au préalable comment il y arrivera, ni où ça le mènera, je croirai qu'à défaut d'être nourri par le théâtre, on peut nourrir le théâtre et son spectateur. Merci.
Est-ce que... Oui, c'est trop bon. Est-ce que Lily Choinière est là? Est-il arrivé? Non? D'accord. Très bien. Martin Fauché. Martin Fauché, à mon extrême droite, metteur en scène, professeur aussi, nouveau président du Conseil québécois du théâtre. Je l'ai félicité ce matin, je vais en remettre. Félicitations, Martin. Martin, donc, a fait ses études au Cégep de Saint-Hyacinthe. Il a travaillé comme comédien metteur en scène auprès de plusieurs compagnies théâtrales et se consacre principalement à la mise en scène d'auteurs contemporains mais aussi classiques. Je vous donne quelques titres, les trois pièces de Carole Fréchette, Les Quatre Morts de Marie, Les Sept Jours de Simon Labrosse, Le Collier d'Hélène, il les a mis en scène, des textes de Jasmine Dubé, qui est parmi nous, dont La Bonne Femme, et Pierrette Tan, ministre de l'Enfance et des Produits Dérivés. Et il a monté de Claudel L'Échange, Les Femmes Savantes de Molière, le Menteur de Corneille. Et il est aussi quelqu'un qui est conscient de l'importance de développer le milieu théâtral québécois. Donc, il donne de son temps dans des conseils d'administration, ce qui n'est pas de la tarte, notamment au Centre des auteurs dramatiques, au Théâtre Bouche Décousue. Il siège actuellement au Fonds Gracien Gélina, chez Daniel Léveillé Danse. En plus, il enseigne dans différentes écoles de formation théâtrale québécoise. Très cher Martin, il nous a fait un très beau texte ce matin, d'ailleurs, qui remplace à pied levé Claude Poisson. Alors, dites-nous, vous, qu'est-ce qui vous anime?
J'ai pas le choix. Je veux dire, depuis que je suis vraiment enfant, pour moi, l'art est vraiment une façon de vivre. C'est une façon de traduire un malaise existentiel. Alors, c'est pour apaiser, pour sublimer, pour me contenter. Alors, je suis un grand consommateur de spectacles. J'en vois énormément depuis que je suis minuscule. Et quand je fais des spectacles aussi, je suis d'abord et avant tout le premier spectateur de ce que je fais. Donc, moi aussi, il y a quelque chose de profondément égoïste. Mais en même temps, j'aime bien, d'une façon immédiate, partager mon égoïsme et me sentir entouré. Il y a aussi quelque chose qui me rassure beaucoup de savoir qu'il y a des gens à côté de moi qui partagent la même vision ou qui partagent la même impression de quelque chose que je produis ou que je vois ou que je fais. En fait. Donc, c'est vraiment pulsionnel. C'est pas intellectuel, c'est pas... Ça peut devenir un combat, ça peut devenir un outil, mais d'abord et avant tout, c'est vraiment pulsionnel. Le premier spectacle que j'ai fait comme metteur en scène, ça s'appelait « À quelle heure on meurt », d'après des textes de Régent Charles. Et je me rappelle, parce que j'avais l'idée de faire un spectacle, mais c'était une idée. Bon. Et je me rappelle très très bien le matin où je décide d'appeler les comédiens, j'avais trop mal au ventre. Mais j'avais vraiment quelque chose de réel, j'étais vraiment barré, j'étais « OK, il y a quelque chose en dedans de moi qui doit absolument sortir ». Et c'était un spectacle, mais c'était vraiment physique. C'était vraiment physique.
Alors finalement, ce qui vous motive est une pulsion physique.
Oui. Si on résume. Oui. C'est, pour moi, c'est vraiment en faisant du théâtre, en voyant de l'art, parce que j'aime vraiment toutes les formes d'art, c'est vraiment me sentir au centre de l'univers et entrer en communication avec des choses qui me dépassent, qui me fascinent, qui m'interrogent, qui me révoltent. Je trouve qu'on est dans une société horrible au Québec. Mais vraiment. Je suis né en 62 et ce que je vois depuis une vingtaine d'années, tout se dégrade. On est dans une société vulgaire, dans une société qui ne valorise aucunement l'excellence, une société cheap, une société au profit immédiat, qui n'a plus de morale, qui n'a plus d'éthique, qui a un mépris pour les gens, qui a une recherche d'excellence. Ça me révolte et dans mes spectacles, je mets en scène l'échec, la bêtise, la laideur, afin de mieux parler de la beauté. Mais je suis profondément déçu et honteux de ma société. Il y a des exceptions, il y a des gens extraordinaires, il n'y a aucune structure forte qui font en sorte que l'artiste peut vraiment rayonner tel à la hauteur de son talent et de sa valeur. Et ça me désespère. Moi, quand j'ai grandi, bon, donc je suis dans 62, c'est peut-être anecdotique ce que je veux dire, mais ce n'est pas vraiment. Il y avait des grands événements, c'est-à-dire il y avait l'Expo 67, on ouvrait sur quelque chose de mondial, on a démoli ça. C'était fait pour être éphémère, c'est le seul problème. Mais donc, il y avait comme une espèce de rêve, de, on s'ouvre sur ce qu'il y a de meilleur partout dans le monde, et c'est fantastique. Après, je me rappelle, il y avait les Olympiques. OK, les athlètes de pointe du monde entier viennent faire des choses chez nous. On construit des infrastructures incroyables pour deux semaines. Et après ça, tout a été démoli pour faire que des choses dans un rapport immédiat. Et moi, quand je fais du théâtre, j'ai comme la prétention de penser que je lance des choses que les gens vont capter et transporter avec eux pour beaucoup plus longtemps qu'un événement ponctuel de deux semaines. Ce qui me motive, c'est que pour moi, c'est un geste social que de faire du théâtre, c'est d'entrer en communication avec l'inconnu, avec des inconnus, avec la partie intelligente de mon voisin et de ma voisine.
C'est pas mal.
Oui, mais c'est pas reconnu. C'est ça qui me désespère. C'est tellement pas acquis. Et ça me désespère complètement parce que un travail en salle de répétition, pour moi, c'est pareil en danse, un peu de mouvement, un petit peu de problème. Une salle de répétition est un laboratoire extraordinaire. Et moi, je peux passer 3 heures à trouver le bon endroit où l'acteur, l'actrice, la phrase doit résonner. C'est quoi la bonne couleur qui doit faire en sorte que tel enjeu de tel texte ait un écho? Mon travail à moi, c'est ça. C'est vraiment d'être là, de regarder. J'ai appris avec le temps que la meilleure façon de diriger, c'est de regarder. Regarder ce qui se passe, voir comment est-ce que ça a un écho autant de moi, lire un texte et voir tel mot déclenche telle image. Mon travail, c'est que ça. Et c'est complètement inutile et c'est complètement utile. C'est comme être dans un jardin et planter des fleurs et faire en sorte que la vie est plus belle, point. Mon travail est ça, et je partage ça avec plein de gens autour de moi. Il y a des gens qui font du théâtre à longueur de vie, qui font des arts, des gestes artistiques à longueur de vie autour de moi. Et depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et tout ça stagne parce que les gens ne peuvent plus s'épanouir. Les gens y croient encore, mais il n'y a plus de résonance. Et ça me désespère profondément.
Vous avez vraiment l'impression que la société d'aujourd'hui est encore plus étouffante pour les artistes qu'il y a 20 ans.
Non, parce qu'il y a de la place pour parler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répression au niveau de la prise de parole. Les moyens pour que les choses s'épanouissent, ça c'est vraiment, ça s'est sclérosé, ça s'est amenuisé, ça s'est stérilisé, il n'y a aucun encouragement à ce niveau-là. Et ça, pour moi, je trouve ça inadmissible comme société riche, comme une société riche, qui valorise l'éphémère. J'aime aussi l'éphémère. Et là, comme metteur en scène, aussi, je suis Québécois et je ne sais plus qui je suis. Donc, je suis autant Européen qu'Américain. J'aime autant le Canal 10 que l'espace culturel de la Canada. Je suis vraiment à la croise de plein de choses. J'adore les choses hyper pointues et je mets en scène le mystère des mauvais, juste pour rire. Et il y a 800 personnes dans la salle sur le monde, mange des pogos qui avancent dans la salle et ça me fait rire à moi aussi. Donc je suis un peu mélangé. Mais il y a une partie de moi-même qui n'est pas du tout valorisée sur les choses qui sont autres que hyper populaires. Donc entrer en communication pour moi est quelque chose de vraiment primordial, mais aussi rechercher longtemps quelque chose qui n'aura peut-être même pas de réponse au bout, ça aussi c'est important. Et on ne permet pas les deux aspects. Mais ces deux aspects de ma personnalité s'épanouir. Moi et tous mes collègues qui font des arts.
Si je voulais.
Donc, je dirais des artistes, c'est très pertinent parce qu'on est dedans. J'ai rarement été aussi conscient et entendu autant de gens venir me dire Martin, ça n'a plus de bon sens. Ça n'a plus de bon sens. On l'entend. Et les gens veulent le faire. Et pas dans un but mercantile. Faire du grand succès. Je rêve de grand succès. Mais pour moi, 200 personnes qui sont profondément touchées, c'est un immense succès. 20 000 aussi, mais ça ne se quantifie pas. C'est-à-dire, une qualité, pour moi, c'est une qualité. C'est une qualité d'écoute, de recevoir une émotion, de recevoir une opinion, de recevoir une idée sous une forme artistique, c'est primordial dans une société. Et on le valorise pas.
Moi, ce qui m'étonne de votre désespoir auquel vous carburez, c'est que vous soyez capable de dire qu'au bout du compte, ça vous fait jaillir de la beauté continuellement. Et c'est ça que vous cherchez.
L'être humain est intelligent, l'être humain est beau, le monde est beau. J'y crois, mais on le saccage.
Si je voulais être l'avocat du diable, je dirais que dans ce petit coin de pays qui est la ville de Montréal, c'est vrai que les artistes sont obligés de faire beaucoup de choses différentes pour vivre et survivre. Et quelque part, moi, je pense que parfois que c'est une bonne nouvelle. Parce que on est obligé, vous êtes obligé continuellement d'aller pousser tellement d'habiletés différentes, que ça fait aussi de vous des artistes encore plus intéressants. Est-ce que vous me lancez des temps?
Un peu. C'est-à-dire qu'il y a une...
Linda, allez-y. Oui, réagissez.
Non, mais je comprends.
Oui, il y a une partie de vrai là-dedans, mais je veux dire... C'est pas que je pense qu'il faut affamer les artistes pour qu'ils deviennent polyvalents et tout ça, mais je pense aussi que d'être capable de passer du théâtre à la télévision, d'un public de juste pour rire à travailler pour l'opéra parfois, Oui, intéressant.
Non, là-dessus, je suis complètement d'accord. Non, c'est, oui, puis je suis la première personne à me dire souvent, je vois les plus jeunes qui viennent, qui sortent des écoles de formation, par exemple, en danse, et qui je disais ça il n'y a pas longtemps, mais qui pourraient appeler facilement les chorégraphes, est-ce que je peux être, j'aimerais ça faire un stage. Très, très peu le font, très, très peu le font. Ils s'attendent souvent, je pense, à...
Qu'on allait chercher,
ou ils sont intimidés, ou c'est bizarre de travailler dans un restaurant, faire autre chose, ça ne devrait pas faire partie, mais ça fait partie, là, c'est normal. Donc c'est normal de faire autre chose, ça prend du temps, mais je pense que c'est une chance aussi qu'on est, par exemple, comédien, on peut, oui, tu peux faire du théâtre, tu peux faire du cinéma, mais oui, la publicité, pourquoi pas, je veux dire, non, là-dessus, c'est plus, j'avais juste une crainte par rapport à...
La façon dont je l'ai dit. C'est pas moi qui est supposée parler ici, il n'y a pas de ligne éditoriale de l'animatrice. Est-ce que, Martin, vous êtes allé au bout de votre pensée?
Est-ce que vous... Non, je ne suis pas allé au bout
de ma pensée. Non, c'est...
Mais, ben oui, pour l'instant, oui.
J'aimerais ça entendre dans la salle quelqu'un qui veut réagir à ce qui a été dit jusqu'ici, qui n'est pas nécessairement quelqu'un qui a planifié une intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se mêler de la conversation. Allez-y, monsieur. Voulez-vous, parlez-vous assez fort.
J'interviendrai sur votre dernière remarque.
Oui. À moi.
Oui, oui, absolument.
Vous êtes monsieur, vous travaillez.
Mon nom est Stéphane Despatie, je suis écrivain.
Oui.
Ça me fait penser à ce que Denis Arcand disait dans une biographie, dans un livre d'empathie. Pardon?
J'ai dit, dites-moi que
c'est. Non, de toute façon, vous êtes complètement contraire de ce que vous dites. Denis Arcand se comparait à Martin Scorsese par le fait que, au moment de leur premier film, tous deux ont fait leur premier film à la même époque. Tous deux étaient à Cannes à la même époque et partageaient la chambre d'à côté. Et Denis Arcand disait, voyez-vous comment lui, sa société, lui a permis de se développer, d'essayer des flops, d'essayer des affaires commerciales, d'essayer toutes sortes d'affaires. Et lui, il se considère comme privilégié ici. Mais il n'a jamais pu se rendre au bout de ce qu'il
avait en fait.
Non, il n'a jamais eu la masse critique nécessaire pour développer ces côtés-là. Et en ce sens-là, la débrouillardise, c'est bien, ça permet toutes sortes de choses, d'élaborer différents points de vue. Mais en même temps, comme artiste, c'est difficile de s'épanouir ici. Il faut constamment se battre avec le politique, avec toutes sortes d'autres structures. Que ça fasse partie de notre devoir, je veux bien. Mais quand cette partie-là, elle est beaucoup plus grande que le reste, qu'un festival doit engager des gens pour chercher de l'argent à l'année longue, que ça coûte aussi cher chercher de l'argent que dans le club. Bon, tout ça n'est pas tout à fait normal.
Non, ça, là-dessus, on est d'accord. Je suis aussi d'accord avec vous, et je sais que c'est une pression épouvantable sur l'ensemble des artistes aujourd'hui, c'est cette pression du hit. Au fond, ce que Scorsese disait, c'est qu'il a pu faire peut-être des essais-erreurs, ce qu'on permet de moins en moins aujourd'hui. Et ça, c'est terrifiant. Et ça doit geler un certain nombre de talents qui ne peuvent juste pas pouvoir exprimer ou offrir leur recherche. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir dans la salle? Oui, allez-y. Pouvez-vous vous lever?
Oui.
Gervais, oui. Gaudreau, Gervais, est-ce que tu veux rester là ou t'approcher?
Non,
je... Ok, vas-y, pas.
Je m'entends, ça va. Je ne peux pas être insensible à votre intervention. Peut-être qu'elle est faite pour provoquer. C'est bien de pouvoir être polyvalent, d'avoir d'ouvrir des antennes, mais il y a... on a besoin de par moment de temps. Bien pas sûr. Parce qu'on est lent, mais le temps oblige à un autre niveau d'intériorité. Et même il y a quelques années, quand on voit même des scénographes, on en a connu, mais je pense entre autres à Claude Goyet, qui se retrouvait à faire en une saison 12 scénographies et ne pas réussir à vivre de son art, et parce qu'on s'épuise à produire pour produire. Je pense au texte courageux que tu as lu, vraiment, Jean-François. Ce qui est formidable, c'est que tu l'as lu, je trouve, avec dignité et sans erreur, parce que tu as trouvé ton chemin. et je ne peux pas, quand j'entends ça comme artiste, ça me bouleverse. Je ne peux pas, comme artiste, j'en parlais ce matin, de voler des connaissances, de solidarité qu'on doit avoir. On est là pour créer des chaînes de désir. Et c'est très dur comme artiste de sentir qu'on peut créer par moments difficilement le désir. Mais vouloir créer le désir, ce n'est pas vouloir créer le succès en un. Moi, je fais mon travail depuis 33 ans. Très, très peu de personnes me connaissent. Et je ne fais pas les grandes pages des grands journaux. Par contre, j'ai compris très, très vite que je devais me créer mon outil de travail pour éviter de me disperser inutilement dans des choses qui ne me convenaient pas. Et je pense que la mobilité, j'enseigne, bon, on peut faire des choses, mais on a besoin aussi d'un cadre, du cadre de l'intériorité, parce qu'il y a des chemins qui sont différents. Et la conduite à l'intérieur des chemins doit pouvoir être différente. Et je veux juste terminer en parlant aussi à ceux qui sont derrière nous, les jeunes, hein, qui sont doués, qui nous donnent des coups de pied au derrière. Je ne peux pas être indifférent, j'enseigne depuis 25 ans. Je viens de terminer un projet à l'École nationale de théâtre avec 12 acteurs en fin de troisième année qui ont créé 12 performances dans des lieux non théâtraux. C'est moi qui ai proposé ce projet-là parce que je réalise qu'ils ont peu ou pas de place pour pouvoir faire exister dans l'urgence leurs paroles. Alors j'ai proposé ça. Comment on peut maintenant apporter le théâtre dans un lieu non théâtral parce qu'il y a une urgence de lieux, de d'autres lieux, et pas pour le succès à tout prix. C'est pas tant le succès qu'on souhaite, je pense, quand on est artiste, c'est la rencontre. Et moi, j'en rencontre des enfants souvent, tous les matins, dans l'anonymat même de certaines salles. C'est un vrai public, c'est un vrai moment. Et c'est pas nécessaire non plus qu'on en parle à la télé. Mais on doit en parler globalement dans la société. Merci
beaucoup. Et je pense que ce qui est sous-jacent à ce que vous dites, c'est oui, la rencontre est peut-être la nourriture la plus fondamentale, mais si j'ai bien écouté notre ami Caron, il y a aussi la reconnaissance, et on a tous besoin de reconnaissance quand on travaille fort. J'aimerais justement, Gervais parlait des jeunes, de ceux qui s'en viennent. J'aimerais passer le micro à Émile Proucloutier, qui est un étudiant au Conservatoire d'art dramatique et qui est aussi, je crois, un peu touche-à-tout. Enfin, vas-y. Qu'est-ce qui t'anime, toi, aujourd'hui? Jeune, t'es en quelle année?
Ok, bien, je me présente rapidement. Je viens de finir, en train de passer mes examens de deuxième année au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. J'ai fait des petites études en cinéma aussi, donc je suis un peu musicien, j'ai fait toutes sortes de trucs. Puis ben là, enfin, c'est un peu très drôle parce que bon, j'étais là ce matin à la table ronde de ce matin, puis en écoutant les gens qui venaient parler, puis même tantôt, aujourd'hui, j'avais l'impression d'entendre des gens de métier, des résistants. Des gens qui ont traversé, mettons, sur le plan sportif, là, leur premier souffle. Qui ont été obligés de patienter jusqu'à l'arrivée du deuxième souffle et du troisième, donc qui travaillent à se maintenir en vie. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, étant à l'école, je ne me bats pas pour faire du théâtre, on m'en demande assez, je me bats pour dormir. Quand j'ai reçu l'email à savoir qu'est-ce qui m'anime, je me suis demandé bon, comment j'ai fait donc, pour passer à travers mes deux journées de 14 heures d'évaluation à la fin de semaine passée. Qu'est-ce que la nuit, entre les deux, j'ai rêvé que je vomissais de mon cerveau. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que fait que je me suis rendu à l'école le lendemain, pareil. Et puis, qu'est-ce que était derrière aussi les petits films que je me suis permis de faire, tout ça. Et j'ai cherché un peu dans les souvenirs d'enfance, les premières sensations, la mémoire et tout, puis je me suis dit, il y a peut-être quelque chose, un choc fondamental ou un désir premier qui est là constamment. Et c'est un peu du temps à en trouver. Je me suis souvenu d'abord d'une histoire qu'on m'avait racontée d'un enfant, pas moi, mais c'est très beau quand même, un enfant avec son père qui voit un sculpteur terminer une œuvre dans le bois, c'est un oiseau, et il demande à ses enfants, à son père, « Papa, comment il a fait le monsieur pour savoir qu'il y avait un oiseau caché dans le bois? » Et moi, c'est drôle, c'est comme si des fois la création du travail, autant sur le plan théâtral que la musique, que le cinéma, c'est souvent ça, c'est quelque chose qui est caché là, et depuis longtemps, et qu'on, en donnant des coups, parfois douloureux, qu'on enlève des couches pour finalement le mettre au monde. Mais c'est déjà là, c'est pas comme si on construit, on laisse pousser quelque chose. Et quand j'étais petit, je me souviens, j'étais intéressé à la musique, tout ça, puis j'étais un enfant, somme toute, triste, moi aussi. Et quand j'avais la peine, mon père me disait souvent, « Émile, va jouer du piano. » Pas pour se débarrasser de moi, je pense pas, mais c'était surtout pour me donner forme, mettre au monde le mal en question, soit donc le sublimer, ou du moins donner forme, être capable de regarder l'oiseau, puis de le confronter, puis de dire « Bon, c'est toi, puis c'est correct, maintenant, pas forcément plus heureux, mais au moins on peut mettre un visage ou une allure sur cette peine-là. » Plus tard, je sais qu'il y a des moments quand des idées d'histoire sont venues, des trucs m'ont poussé à écrire, j'écris avec joie des fois, mais pas toujours. Puis même à l'école, on me fait chier. Et puis, mais c'est comme si je me sentais comme l'espion dans Mission Impossible qui reçoit la cassette, puis qui se fait dire votre mission, c'est pas le choix d'accepter, c'est de prendre quelque part. Et puis, j'ai l'impression, quand j'ai une idée ou que quand tu donnes un coup, puis tu aperçois le bout de la patte de l'oiseau dans le bois, puis tu te dis, merde, il faut absolument que je. Même si je veux pas, il faut absolument que je continue à taper dessus, parce que sinon, l'oiseau va s'étouffer et va mourir dans le bois. Il faut absolument que je travaille. Puis, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de solitude de l'espion de sa propre âme, qu'il faut être là, puis il faut chercher, puis on est obligé. Des fois, même en tournant un film, j'ai l'impression de faire le film de quelqu'un d'autre, tellement je suis épuisé, mais je le fais avec. Comme si c'est. De toute façon, je suis obligé de le faire. De toute façon, ça fait partie d'un espèce de mandat qui est là. Et puis finalement, dans le moment plus heureux, bien, j'ai l'impression que c'est même pas la noblesse du souffle artistique ou rien, j'ai l'impression que c'est le plaisir sportif de faire le geste, le plaisir sportif de laisser glisser la plume sur le papier, ça fait un son qui est fun, le plaisir sportif d'être debout dans un espace de travail avec quelqu'un qui dit « Va-t'en, t'assois à gauche, pour quelque chose. » Mais chaque petit instant comme ça. Et finalement, en cherchant durant la fin de semaine de quoi je vais vous parler, je suis tombé dans les bas de souvenirs sur le choc premier ou l'image première de ce qui m'anime. Et ça remonte à 1987. Bon, certains de vous débossaient à ce moment-là, mais moi j'avais 4 ans. Et principalement le 31 octobre, en fait, 1987. Je suis tombé là-dessus. Je rentrais là-dedans à l'époque. Et moi, j'ai passé l'Halloween donc avec ça sur le corps. Mais j'aurais mis un veston, une chemise et des pantalons de cravate avec des arcanes par-dessus. Donc personne n'avait su que j'étais Superman en fait. À la question de l'internaute, moi je dirais que c'est pas une volonté de pouvoir que les artistes ont, enfin, pas moi, mais une volonté de puissance, oui, par exemple. Ce qui n'est pas la même chose. Je pense que la volonté de puissance, c'est-à-dire même ce qui parfois le succès passe peut-être, faut peut-être passer par le succès pour l'avoir, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de faire les trucs, et la possibilité de, comme Scorsese, avoir le droit de se tromper, mais que le geyser soit pas terni par rien du tout. Ici, ça veut dire d'avoir son visage à la télévision pour que les gens pensent à toi et te permettent d'exercer ton travail, ben il y a une petite partie de la volonté de puissance qui est là. Ben moi, Superman, j'ai l'impression qu'il est un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'il est obligé de transformer ses faiblesses en pouvoir, tout comme parfois la peine en étant enfant. Je pense que même quand ça ne tente pas, il est obligé d'y aller. Et c'est le cas aussi de quand on a une idée et qu'on n'est pas forcément en forme, il faut se rendre pareil. Et en créant aussi l'espèce de plaisir physique, j'imagine qu'il doit avoir, lui, il a sauté par-dessus des buildings, même s'il a l'air fâché. Je pense qu'il y a du plaisir à voler. Puis moi, quand je joue sur une scène ou quand je mets le point final à un scénario de court-métrage, ben, ça me console, du moins, de ne pas être un oiseau.